Il est 5h sur Europe 1.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015 qui s'est ouvert hier avec l'appel des témoins et partie civile. Une journée marquée par les provocations de Salah Abdeslam. On fait le point sur ce premier jour d'audience avec Marion Dubreuil. Agen sous l'eau, du jamais vu. Deux mois de précipitation en 3 heures. L'eau est montée par endroits jusqu'à 2 mètres et certains habitants se sont retrouvés piégés. Témoignage dans un instant. Et puis le match de la honte. Nice-OM sera rejoué à huis clos et sur terrain neutre. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a tranché. Et le journal de 5 heures vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour Julien et Omblin, bonjour à tous.
Le premier jour du procès du siècle, c'était hier.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015. Il a débuté à 12h30 par l'appel des témoins et partie civile durant de longues heures et se poursuit ce jeudi. Mais hier, la journée a aussi été marquée par les provocations de Salah Abdeslam. Il s'est présenté comme un combattant de l'État islamique, Marion Dubreuil.
Oui, dès le départ, Salah Abdeslam, habillé en noir, cheveux mi-longs et barbe fournie, a voulu imposer son rythme à la cour. Il a pris la parole avant les questions du président pour renouveler son allégeance au califat. Mais le magistrat est resté imperturbable. Même chose lorsque le seul survivant du commando du 13 novembre s'est levé pour dénoncer ses conditions de détention. Cela fait 6 ans que je suis traité comme un chien. Le président a gardé son cap, comme le salue Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris.
Les propos du président et la manière dont il a été très clair et dont il ne s'est pas démonté pour répondre à Salah Abdeslam était très bien. Quand il lui dit qu'il est un soldat du califat, il lui répond « Bon, moi j'ai manutentionnaire sur ma fiche, je crois que ça dit tout. On n'est pas là pour des postures, on est là pour des faits. » Et ça, c'est extrêmement rassurant.
Et les accusés ne seront pas interrogés avant le 2 novembre. D'ici là, la parole sera aux enquêteurs et aux parties civiles.
La deuxième journée d'audience commence à 12h30 aujourd'hui. Alors Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Abdelhamid Abaoud, ces membres du commando du 13 novembre sont tous passés à Molenbeek. Ils y ont vécu ou transité. Le nom de la commune belge a résonné dans le monde entier. Pour ce premier jour du procès des attentats, Isabelle Horry y est retournée pour Europe 1.
Sur la place communale, la maison de la famille Abdeslam est toujours là, mais la mairie a relogé les parents de Salah Ibrahim. Abdil tient un café tout près, il aimerait tourner la page.
La vie a repris, tout va bien. Je m'entends avec tout le monde, pakistanais, afghans, belges, marocains, tunisiens.
Bachir Emrabet est plus circonspect. Le directeur du foyer des jeunes n'avait rien vu venir il y a 6 ans. Depuis, il a créé des ateliers pour sensibiliser les jeunes à la propagande sur les réseaux sociaux.
J'essaie d'observer autour de moi ce qui se passe, sans être paranoïaque bien sûr. On essaie de ne pas se faire avoir une deuxième fois quant à la perception des choses. Maintenant, nous, notre seul outil pour pouvoir toucher les jeunes, c'est de les pousser à être plus critiques.
Les autorités aussi pensent être davantage à l'affût. Françoise Kepmans, adjointe à la mairie, veut croire que les choses ont changé.
Il y a beaucoup plus de communication entre la police locale, fédérale, les acteurs de prévention, d'éducation, pour justement pouvoir recouper le profil de ces individus. La vigilance reste de mise, bien évidemment.
Vigilance, car Molenbeek reste l'une des communes les plus pauvres de Belgique. La délinquance et le manque de perspectives pour la jeunesse n'ont eux pas disparu. Molenbeek, Isabelle Horry, Europe.
Il est 5h04 et que d'eau dans les rues d'Agen hier soir. Si la situation est plus calme ce matin, des records absolus de précipitations ont été battus.
Oui, 2 mois de précipitations en 3 heures, jusqu'à 2 mètres d'eau dans certaines rues. Aucune victime selon le premier bilan donné peu avant minuit par les pompiers, mais une vingtaine de personnes évacuées, quelques-unes relogées. Réaction de 2 témoins joints dans la soirée par Thibaut U, l'un bloqué dans sa voiture, l'autre au sec depuis chez elle après avoir traversé l'inondation.
Ça fait maintenant 1 heure que je suis bloqué dans ma voiture puisque l'eau est vraiment montée très vite. Devant moi, j'ai 30 cm d'eau, voire même 40 cm d'eau. Et quand je demande aux passants qui arrivent, qui sont détrempés, ils me disent que c'est même pire qu'il y a de l'eau jusqu'à hauteur de presque 2 voitures. Que certains ont même de l'eau jusqu'au nombril, donc bon, ben, je sens que je vais peut-être passer la soirée dans la voiture.
On voyait que plus on avançait, plus la voiture est enfoncée, quoi. Mais du coup, quand je suis rentrée dans le hall, j'ai tout de suite vu qu'il y avait 10 cm d'eau presque, voire plus. Et là, c'est bon, là où j'ai commencé à avoir peur. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. À Agen, c'est pas un endroit où ça arrive souvent. C'était assez stressant.
Le niveau d'eau est descendu dans la soirée, assure la première adjointe au maire d'Agen en Dordogne, Sarla. Un cinéma a été évacué en pleine séance à cause des inondations.
Le temps de parole d'Éric Zemmour décompté à partir d'aujourd'hui.
Décision rendue hier par le CSA. Les médias doivent décompter son temps de parole. L'éditorialiste est désormais considéré par le Conseil supérieur de l'audiovisuel comme un acteur du débat politique national. En clair, est-ce qu'on peut le considérer comme un candidat à la présidentielle, Alexandre Chauveau ?
Oui, le CSA estime en fait qu'avec les derniers développements autour de sa potentielle candidature, son temps de parole n'appartient plus à celui d'un éditorialiste, mais à celui d'un homme politique. On rappelle qu'Éric Zemmour n'est pour l'instant pas candidat, mais que des équipes se sont constituées pour aller chercher des parrainages et que plusieurs sites internet ont fleuri pour le soutenir dans le cas où il entrerait en campagne. Parallèlement à cela, il intervient quotidiennement sur CNews et doit reprendre son émission sur Paris Première fin septembre. Alors dans l'entourage du polémiste, la décision du CSA ne passe pas, ses proches y voient une tentative de le faire taire et dénoncent une mesure arbitraire fondée sur la présomption et la rumeur. La décision interroge ses équipes, tous les temps de parole des éditorialistes doivent-ils être désormais décomptés ? Imposera-t-elle aux médias du service public de recevoir Éric Zemmour, lui qui n'a plus été reçu ni par Radio France ni par France Télévisions depuis 2016 ? Je ne me tairai pas, conclut l'éditorialiste dans un communiqué. Le bras de fer avec le gendarme de l'audiovisuel est engagé.
Éric Zemmour, qui a été relaxé hier par la cour d'appel de Paris, il était poursuivi pour injure et provocation à la haine pour des propos tenus en 2019 à la convention de la droite. À gauche, les envies d'Élysée d'Anne Hidalgo ne font plus de doute. Finalement, la maire de Paris choisit d'officialiser sa candidature à Rouen dimanche.
L'hommage national et populaire à Jean-Paul Belmondo, ce sera à 16h30 aujourd'hui.
Et c'est aux Invalides pour l'acteur décédé lundi en présence de 1000 personnes, mais aussi d'Emmanuel Macron, Brigitte Macron, la famille et les proches de Jean-Paul Belmondo. Les autres suivront la cérémonie de l'extérieur grâce à deux écrans géants. Et dès 19h30, la cour restera ouverte. Le public pourra se recueillir devant son cercueil. Trois cocktails Molotov lancés sur un fourgon de police hier au Tarteret à Corbeil-Essonne. 20 à 30 jeunes ont attaqué le véhicule. Les nuits d'émeutes se succèdent dans le quartier depuis l'interpellation de deux jeunes jeudi dernier.
Après le match de la honte entre Nice et l'Olympique de Marseille le 22 août dernier, la commission de discipline a décidé de frapper fort.
Oui, les principaux acteurs de la soirée ont été entendus hier par les sages. Entre envahissement de terrain, jet de bouteille, coups, la commission de discipline de la Ligue frappe fort. Elle envoie un message de fermeté, Cyril de la Morinerie.
Oui, après 3 heures d'audition et 1h30 de délibéré, la commission de discipline a pris des décisions très fortes. Nice, qui a accueilli cette rencontre, se voit sanctionné de 2 points de pénalité, dont 1 avec sursis. Les Niçois seront également privés de spectateurs lors de leur prochaine rencontre dans leur stade. Mais surtout, le match qui s'était terminé sur le score de 1-0 en faveur de Nice devra être rejoué sur terrain neutre et à huis clos. Les atermoiements de l'arbitre Benoît Bastien, qui a fini par demander aux acteurs de revenir sur la pelouse, ont pesé lourd dans cette décision, a expliqué le président de la commission de discipline, Sébastien Deneux.
Monsieur Bastien a, depuis le retour au vestiaire, eu le sentiment que le degré d'insécurité avait été tel qu'en réalité ce match ne pouvait être rejoué. En dépit de sa décision finale, mais compte tenu des hésitations en tout cas, il nous est apparu plus cohérent de faire rejouer ce match.
En tout cas, Dimitri Payet, à la fois fautif et victime dans cette affaire, il avait reçu une bouteille à la nuque avant de la renvoyer en tribune, écope d'un match de suspension avec sursis. Alvaro González, son coéquipier, de 2 matchs fermes. Sans surprise, le préparateur physique du club phocéen, Pablo Fernandez, qui avait donné un coup de poing à un supporter, est suspendu jusqu'en juin 2022.
Voilà qui est dit. Cyril de la Morinerie, c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci Alban.
Il est 5h08 sur Europe 1, à l'heure des courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et mon pari gagnant sera le 307 Forever Bee. Né en Irlande, issu du craque étalon du Bowie et de Nature Spirits, une excellente reproductrice, cette pouliche est visiblement à la hauteur de son pédigré. Elle n'a pas été revue depuis sa probante 4e place obtenue le 14 juillet à Longchamp dans une course de groupe 2 d'un niveau bien supérieur à celle de cet après-midi et comme je la sais dans une condition physique optimale le matin sur les pistes d'entraînement de Chantilly, il est légitime d'en attendre ici une victoire. Alors notez bien pour Paris-Longchamp, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 7, Forever Bee.
Forever Bee, le numéro 7. Merci Thierry Léger. On vous retrouve dans une petite demi-heure pour vos pronostics du Quintet.
Bon réveil sur Europe 1, vous restez avec nous. Dans une minute, c'est le pressing.
Les articles à lire de toute urgence ce matin au programme des hommes en location, des parfums révélateurs et des humeurs boursières. Ça vous intrigue ? Alors restez à l'écoute.
Ombline Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. J'espère qu'au-delà de la fatigue, bien légitime à 5h10, vous avez le moral. En tout cas, ce qui va suivre devrait vous arracher quelques sourires.
C'est le pressing, c'est notre revue de presse décalée avec l'arrivée de Martin Lange, évidemment. Bonjour Martin.
Bonjour Ombline, bonjour à tous.
Alors, je vous propose de jeter un œil tout d'abord sur les unes de vos quotidiens. La reprise fragilisée par les pénuries de main-d'œuvre, titre Le Figaro. On en parle très régulièrement. Et sur cette antenne, il y a de nombreux chefs d'entreprises qui ont beaucoup de mal à recruter. Aujourd'hui en France revient pour sa part sur la première journée du procès des attentats du 13 novembre, marquée par la provocation de Salah Abdeslam. « Je suis un combattant de l'État islamique », c'est la phrase qui barre la une du journal. Et puis on vient d'en parler dans le journal justement, « Nice-Marseille a rejoué », titre l'Équipe. C'est en effet la décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après l'interruption du match le 22 août dernier après des jets de projectiles. Voilà pour les unes les plus marquantes. Omblin, on commence avec vous.
Dis-moi quel parfum tu portes, je te dirai à quelle époque tu vis. C'est un article à lire dans Le Figaro qui établit une corrélation entre parfum et séduction. L'odeur qui émane de notre corps a pour but de faire tourner la tête de celui ou celle qui la respire. On se parfume depuis l'Antiquité, donc on a compris depuis longtemps que les quelques notes sucrées, boisées ou fleuries déposées dans le creux du cou influent sur les rapports humains. Mais retour à notre ère, pendant plus d'un demi-siècle, le parfum féminin a renvoyé l'image d'une femme hypersexualisée, érotisée par une surdose de vanille, de bergamote, de patchouli, à l'image de Chalimar, lancée par Guerlain. Vous savez la date, 1925.
Ah oui.
C'est pas hier. La femme fatale des années 70 fait tomber quelques gouttes d'opium d'Yves Saint-Laurent ou de poison. C'est avec ce flacon rouge de Christian Dior sur son décolleté. Les noms choisis pour ces fragrances ont le mérite d'annoncer la couleur. Premier revers pour ces parfums capiteux, le mouvement minimaliste des années 90 avec le fameux CK1 de Calvin Klein, mais aussi les effluves gourmandes provoquées par Angèle de Thierry Mugler au succès incontournable, avec succès considérable.
Très musqué.
Oui, exactement. Les fragrances évoluent avec la société, avec les mœurs, donc il faut bien dire avec la condition féminine. Et oui, le mouvement MeToo a laissé des traces, messieurs. On s'asperge d'accords plus douillés, plus légers désormais, moins enivrants, voire excitants. Mais MeToo n'est pas la seule explication de cette mutation. La parfumerie a longtemps été une affaire d'hommes qui projetait l'image de la femme fantasmée. Voilà, d'où les opiums, d'où les poisons.
C'est encore notre faute, Martin.
Aujourd'hui, les directeurs, directrices artistiques sont de plus en plus des femmes. Le parfum, enfin, à l'épreuve du Covid et ce masque qui couvre la moitié du visage. On ne se respire plus les uns les autres. Bof, c'est terminé. Parfois, c'est pas plus mal.
Oui. En revanche... Dans le métro à 8h, oui.
On conserve donc dans nos narines notre propre odeur, celle de notre parfum. Le parfum, avec le Covid, finalement, devient quelque chose de personnel. En 2021, on se fait plaisir à soi. Voilà, parfum, société, séduction, c'est dans Le Figaro.
Et on va lire ça avec attention.
Oui, c'est très rigolo.
Avec du nez, merci Omblin. Martin, à vous.
Conditions féminines toujours, avec ces femmes chinoises qui s'ennuient dans leur couple. C'est le site Slate qui nous l'apprend, reprenant notamment les propos d'une comédienne chinoise qui a créé la polémique en déclarant « Comment les hommes peuvent être à la fois si moyens et si confiants ?» Je ne sais pas si ça vous parle, Omblin.
C'est drôle ça. Plus ils sont moyens, plus ils sont confiants. Vous avez vu ça?
C'est encore mieux dit comme ça.
Pourquoi vous me regardez comme ça?
Je vise personne.
Alors, c'est vrai que la société chinoise reste très patriarcale, enfermant les femmes dans des mariages assez peu épanouissants. Et face à ce constat, certaines entreprises ont trouvé la solution. Alors, est-ce que vous connaissez les maid cafés?
Pas du tout.
Alors, les rencontres, non?
Ouais, c'est à peu près ça. C'est ces cafés où des femmes habillées en soubrette divertissent, entre guillemets, je mets bien les guillemets, la clientèle. Eh bien, il existe un pendant masculin, ça s'appelle les butler cafés, avec leur majordome qu'on peut louer pour une après-midi. Et le concept à la cote en Chine, puisque c'est... Butler Café fleurissent dans tout le pays. Une douzaine a ouvert en quelques mois. Alors pour 400 yuan, si ça vous intéresse, Omblin, soit un peu plus de 50 euros, vous pouvez louer un jeune homme. Il vous écoutera attentivement, vous servira tout aussi attentivement et pourra même jouer avec vous. J'y viens. Tout ça, c'est très officiel, mais il arrive que la clientèle réclame parfois des relations sexuelles, ce qui est formellement interdit. Alors Slate nous emmène dans un de ces établissements, le Promise Land à Shanghai, un butler de luxe où les clientes dépensent en moyenne 600 yuan, c'est-à-dire à peu près 80 €. Elles peuvent aussi participer à des soirées privées, hein, pour la modique somme de 3 200 €. Donc, sous couvert de participer à la libération de la femme, hein, ces cafés sont avant tout un business. D'ailleurs, les féministes chinoises, hein, l'ont bien compris. Elles estiment que les butler cafés ne sont pas un remède au patriarcat, mais plutôt un symptôme. Slade souligne aussi, hein, que les conditions de travail de ces serveurs particuliers sont difficiles. Leurs employeurs les forcent notamment à garder une ligne irréprochable et la concurrence entre eux est très rude, hein, au Promised Land. On les classe en 3 niveaux, débutants, avancés ou célébrités, des niveaux qui définissent évidemment leur rémunération et leurs pourboires respectifs sont affichés sur un mur, hein, pour accentuer encore cette concurrence entre eux. Fatigués des hommes, des Chinoises préfèrent en louer un pour l'après-midi. C'est donc à retrouver sur le site Slate.
On a encore beaucoup confiance aujourd'hui dans la nature humaine.
C'est d'une tristesse.
Ah, écoutez,
j'avais promis aux auditeurs des sourires, alors là, vous venez de tuer le game. Merci Martin.
À vous Julien, vous allez peut-être rattraper tout ça.
Ouais, j'ai choisi pour ma part un article à lire sur le site du JDD, article qui va grandement intéresser tous ceux qui aiment jouer en bourse. Une question, Omblin, tiens, oui, au hasard. Quand vous avez un coup de mou, vous écoutez quoi comme musique? Plutôt ça? Ou plutôt ça?
Avec le temps va, tout s'en va.
Bon, on va dire la première, hein, évidemment, pour me remonter le moral, c'est plutôt Queen.
Eh bien, je suis au regret de vous annoncer, Omblin, que vous êtes une anomalie. Contrairement à vous et aux idées reçues, nos choix musicaux sont majoritairement en adéquation avec notre humeur du moment. En clair, du Léo Ferré quand vous avez le moral dans les chaussettes et du Queen quand vous avez la pêche. C'est ce que nous apprend une étude publiée dans le Journal of Financial Economics.
Mais quel est le rapport avec la bourse?
Eh bien, pour gagner en bourse sur le long terme, il faut avoir du nez comme avec vos parfums, être capable d'anticiper les mouvements à la hausse ou à la baisse. Or, si les salles de marché sont bardées d'ordinateurs et d'algorithmes qui analysent les transactions en temps réel, le meilleur moyen de prédire l'évolution des cours, c'est de mesurer l'humeur des traders. Et pour cela, ces chercheurs se sont dit, bah, pourquoi pas ne pas utiliser les données collectées par Spotify, le leader mondial du streaming musical. Problème, ces données sont anonymes, impossible de consulter uniquement les choix musicaux des traders, vu que les classements des chansons les plus écoutées sont établis pays par pays. Qu'à cela ne tienne, ces scientifiques ont donc analysé l'humeur musicale, entre guillemets, de la population de 40 pays sur une période donnée et ils ont comparé les résultats avec l'évolution des marchés nationaux. Résultat, ça match, ça concorde, il y a bel et bien un lien de corrélation entre nos choix musicaux et la variation des cours de bourse. Mieux, vu qu'il y a un temps de latence naturel entre le moment où vous écoutez une musique triste ou joyeuse et l'instant où ça se traduit dans vos choix sur les marchés financiers, il est possible d'anticiper de quelques jours l'évolution des cours de bourse. En clair, si lundi prochain, Martin, vous constatez sur Spotify que les chansons les plus écoutées par les Français sont plutôt joyeuses, eh bien il y a de fortes chances, selon cette étude, que le vendredi, le CAC 40 est progressé sur une semaine.
On va se mettre à boursicoter maintenant, si c'est en rapport avec la musique, si ça nous aide.
Ça reste une étude. J'attends de voir sur le long terme.
On ne va pas s'avancer. Merci beaucoup.
Je ne mettrai pas toutes mes économies. Mais...
Non, on ne va pas tout miser aujourd'hui. Merci Julien Rideau sur le pressing et Martin.
Par contre, dans un butler café, ça y va.
Plutôt le maid café pour moi, si je peux me permettre.
Oui, pardonnez-moi.
On sera très heureux de vous retrouver, Martin, pour le Journal des Sports dans 40 minutes.
À tout à l'heure.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h et bientôt 19 minutes sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi. C'est le journal permanent avec Alban Leprince.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015 reprend aujourd'hui. Il a commencé hier avec l'appel des parties civiles et témoins. Une première journée marquée par les provocations de Salah Abdeslam, seul survivant du commando du 13 novembre. Il s'est présenté comme un combattant de l'État islamique. On n'avait jamais vu ça, des inondations impressionnantes. Hier soir, il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie en 3 heures, un record absolu. L'eau est parfois montée jusqu'à 2 mètres dans certaines rues. Ce matin, 5 départements sont toujours placés en vigilance orange aux orages. L'hommage national et populaire à Jean-Paul Belmondo a lieu cet après-midi à 16h30 en présence de 1000 personnes. La cour des Invalides restera ouverte au public. À partir de 19h30, il sera possible de se recueillir devant son cercueil. Enfin, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a tranché après le fiasco Nice-OM. Il faut rejouer le match sur terrain neutre et à huis clos.
Europe 1. Bon réveil, il est 5h20 sur Europe 1, c'est l'heure des initiatives en France. On met en lumière celles et ceux qui font bouger les lignes. Et ce matin, Julien, direction Outreau, dans le Pas-de-Calais.
Où depuis quelques jours s'est installé un philosophe pour plusieurs mois. On appelle cela une résidence. Et ce philosophe, c'est vous, Guillaume Leblanc. Bonjour.
Bonjour.
On connaît les résidences d'artistes, les résidences d'écrivains, mais les résidences de philosophes, je dois avouer que je n'en avais jamais entendu parler. C'est une première ?
Oui, c'est vraiment une première. Ils s'amusent ici à dire que c'est une première mondiale, mais ce n'est pas tout à fait faux. C'est un projet très original puisqu'il s'agit, par cette résidence, de ne pas faire œuvre. Enfin, ce n'est pas lié à un projet d'écriture. C'est plutôt de proposer une démarche de philosophe au sein même de la ville, avec les habitants, en discutant ici ou là, un peu en renouant avec l'exercice socratique, finalement, du philosophe allant dans la ville et questionnant les habitants.
En quoi consiste votre mission exactement ? Dans quel cadre vous intervenez ? Celui de la vie de tous les jours, comme par exemple parler philo avec votre voisin de table à la terrasse d'un café ?
Oui, alors ça peut commencer par là. D'ailleurs, je tiens vraiment à ce qu'il y ait des moments dans lesquels je serai simplement à un café, ici ou là, pour pouvoir échanger avec quiconque souhaite venir. Ça peut prendre cette forme spontanée, mais ça peut prendre aussi des formes un peu plus organisées, disons avec la mairie d'Outreau qui est à l'origine du projet et avec Cité Philo qui est l'institution qui a rendu ce projet possible. Il s'agit d'organiser des rencontres avec différents acteurs, différentes associations, différentes structures. L'idée est que quiconque est intéressé par la philosophie doit pouvoir venir me rencontrer pour échanger, soit de manière spontanée, soit autour d'un projet qui tient à cœur un certain nombre d'habitants. À titre d'exemple, je vais intervenir plusieurs fois sous forme d'un petit séminaire sur les 3 mois de ma présence avec le Centre culturel d'Outreau pour discuter de la notion de participation avec des acteurs culturels, avec des travailleurs sociaux, avec des acteurs politiques qui se posent la question notamment de savoir pourquoi finalement certaines personnes qui se sentent particulièrement invisibles, peu appréhendées, relativement exclues, n'osent pas participer aux différentes initiatives proposées par la ville.
Donc l'idée c'est de prouver et de démontrer à ces personnes-là que vous venez de nous parler que la philosophie n'est pas qu'une affaire d'intellectuel.
Oui, l'idée c'est que vraiment c'est de faire une philosophie au plus près du quotidien. Moi, je suis très attentif. C'est le type de philosophie que j'essaie de faire, une philosophie de l'ordinaire, une philosophie inscrite dans l'ordinaire. Donc, pas du tout une philosophie qui se perd dans le ciel des idées, mais une philosophie qui s'efforce de construire une réflexion commune par le dialogue avec n'importe qui, au fond, sans titre ni distinction, justement. Et ce qui fait la beauté de ce geste, me semble-t-il, c'est au fond la conviction que la philosophie peut aider à mieux vivre, qu'elle est un soin apporté à l'existence, mais qu'en aucun cas elle ne consiste à dire aux autres, aux habitants, ce qu'ils doivent penser. Plutôt une démarche qui vise à les faire accoucher en quelque sorte de leur propre pensée, hein, parce que j'ai parlé de Socrate tout à l'heure, c'est une forme de maïeutique, un art d'accoucher des esprits, mais une maïeutique peut-être sociale, puisque l'enjeu de cette démarche, c'est de permettre aux habitants de penser les conditions sociales de leur existence, leurs épreuves de vie. L'idée étant que si nous arrivons à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, il doit être possible dès lors de proposer un chemin d'émancipation pour chacun et chacune, afin de mieux aller vers aussi une réappropriation. Bon, Outreau, c'est une ville dont on sait qu'elle a été extrêmement blessé dans le passé. On pense
évidemment à l'erreur judiciaire qu'on connaît tous, voilà, qui est associée d'ailleurs au nom de cette ville.
Exactement, qui est associée au nom de la ville. C'est-à-dire, trop pour les gens, c'est vraiment l'exemple de l'erreur judiciaire. C'est une espèce de tâche dans le monde judiciaire. J'aime beaucoup travailler à partir vraiment d'une réalité. En prenant le temps de rencontrer des gens, de dialoguer. Bon, j'avais travaillé comme ça sur l'hospitalité avant avec Fabienne Brugère, là, dans un livre sur l'hospitalité. On était allé à la rencontre des migrants, on était allé voir la jungle de Calais, etc. C'était vraiment quelque chose. Pour moi, j'envisage pas de faire la philo uniquement dans les livres. Et donc, oui, c'est sûr que là, je me dis que j'ai une matière. Je vais peut-être avoir une matière humaine assez exceptionnelle, de voir un peu comment cette ville d'Outreau va se développer et s'inscrire aussi dans une histoire du Nord. Voilà, je trouve que c'est intéressant vraiment. Voilà, pour le moment, j'essaie de pas trop avoir de présupposés et vraiment d'observer et de dialoguer.
Merci beaucoup, Guillaume Leblanc, de nous avoir accordé quelques minutes, de nous avoir expliqué le sens de cette résidence de philosophe que vous venez d'entamer à Outreau. C'est une très belle initiative et on vous souhaite qu'elle soit fructueuse. Très bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Excellent début de matinée sur Europe 1 et avec maintenant Bruno Mars et Anderson .Paak, leur projet Silk Sonic. Rendez-vous en janvier pour écouter le disque An Evening with Silk Sonic, un album qui nous promet un voyage dans le temps lorsque, dans les plus grands studios américains, on produisait le meilleur de la soul.
Sonic sur Europe 1 avec Skate.
Deuxième... Silk Sonic. Silk. Donc, c'est ça.
Ouais, c'est bien ça. Mm-hmm. J'ai dit quoi ?
Silk Sonic.
Ouais, bon, ben voilà. Alors pourquoi me reprendre ?
Pour vous embêter. Skate.
Deuxième extrait de leur album qui devrait sortir en janvier prochain.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28 sur Europe 1, bon réveil à vous et ou bon retour chez vous après une longue nuit de travail. Quoi qu'il en soit, restez à l'écoute de ce qui va suivre, d'autant qu'il sera question en ligne de petit déjeuner dans un quart d'heure.
Alors je vous préviens Julien, je ne vais pas me gêner pour plonger les doigts dans la pâte à tartiner que va nous apporter Olivier Pouls. Oubliez les produits industriels, hein, cette pâte à tartiner-là est élaborée par un grand glacier chocolatier.
Oui, il paraît qu'après l'avoir goûté, on ne peut plus s'en passer. En revanche, ce dont on aimerait pouvoir se passer, c'est le triste bilan établi par la SPA.
Oui, des chats, des chiens, des lapins et même des serpents recueillis par l'association cet été. Le chiffre des abandons est historiquement haut. Il concerne près de 17 000 animaux. Comment expliquer un tel chiffre ? Je poserai la question tout simplement dans 10 minutes au président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne.
Mais avant, la météo avec Anissa Haddadi, journée encore très pluvieuse.
Oui, pluvieuse, orageuse, il va falloir être prudent. Nous avons 5 départements placés en vigilance. L'Ariège en vigilance orange aux orages, orage également pour la Haute-Garonne, orage pour le Tarn, orage pour l'Aveyron et puis l'Aude placée en vigilance orange, orage et pluie et inondation. Alors d'ailleurs, c'est sur le Languedoc-Roussillon hein, que les orages vont stagner une bonne partie de la journée. Actuellement, quand on regarde les radars, on voit que de Perpignan à Millau, en passant par par Narbonne, Béziers et Lodève. Les orages frappent déjà ce matin. Soyez prudents si vous prenez la route dans ces régions. Les cumuls de pluie attendus sont assez importants. Dans la journée de l'Occitanie jusqu'aux Ardennes, en passant par l'Auvergne, donc vous voyez, sur une large diagonale, nous avons des orages qui restent bien présents. À l'arrière de cette dégradation orageuse, nous avons un ciel de traîne qui se met en place. Des Hauts-de-France jusqu'à l'Aquitaine avec pas mal d'averses. Bref, c'est une journée vraiment très mitigée. Sauf des Alpes à la Provence et même jusqu'en Corse où là, le temps reste sec. Attention, ce matin, sur le centre-Val de Loire, l'Aquitaine et le Pays Basque, de nombreux brouillards.
Merci Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Votre journal, 5h30.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Beaucoup de dégâts matériels sont à déplorer, notamment dans des habitations privées. Beaucoup de véhicules endommagés. Aucune atteinte aux personnes n'est à déplorer.
La maire adjointe d'Agen constate les dégâts. Près d'1,50 m d'eau par endroit. Il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie en une heure seulement, conséquence des orages qui se sont abattus sur la région. Le procès des attentats du 13 novembre 2015, une première journée d'audience marquée par l'attitude et les provocations du principal accusé, Salah Abdeslam, à l'encontre des juges. Il y a 20 ans, le commandant Massoud était assassiné par deux terroristes d'Al-Qaïda. Celui que l'on surnommait le lion du Panjshir incarnait la résistance absolue au régime taliban de retour au pouvoir en Afghanistan. La France se prépare à rendre un hommage national à Jean-Paul Belmondo. Cérémonie très solennelle à 16h30 cet après-midi dans l'hôtel des Invalides à Paris. Et puis la patrouille de France s'engage dans la lutte contre le cancer qui touche les plus jeunes. C'est l'opération Septembre en or. Les jets bleu-blanc-rouge survoleront Paris ce soir à 19h. Et le journal de 5h30 vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Agen retrouve progressivement son visage, même s'il faudra du temps pour effacer les traces des inondations. Cette commune du Lot-et-Garonne a été durement touchée par les orages qui ont balayé le sud-ouest hier soir. Il est tombé en une heure, l'équivalent de 2 mois de pluie. Résultat, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres dans certaines rues. L'adjointe au maire d'Agen, Clémence Brandolin-Robert, dresse un premier bilan.
Beaucoup de dégâts matériels sont à déplorer, notamment dans des habitations privées, caves, garages, beaucoup de véhicules endommagés dans certains quartiers de la ville. Nous avons procédé à 3 relogements de personnes donc, qui étaient en difficulté et les pompiers ont mis en sécurité à peu près entre 15 et 20, et 20 logements. Aucune atteinte aux personnes n'est à déplorer, vraiment que des atteintes matérielles. Ça a vraiment baissé à part quelques rues où l'eau était montée jusqu'à 2 mètres, donc qui sont encore sous l'eau. Mais sinon, voilà, dans la plupart des rues, le niveau d'eau est complètement descendu.
Propos recueillis par Thibaut Hue et cette activité orageuse qui continue son parcours vers l'Occitanie. Météo France prévient que les orages pourront localement être violents et accompagnés de fortes pluies, notamment dans le département de l'Aude. On attend jusqu'à 150 mm d'eau au mètre carré jusqu'à midi.
Le procès des attentats du 13 novembre s'est donc ouvert hier devant la cour d'assises spéciale de Paris.
Une première journée consacrée à l'appel des témoins et des parties civiles, avec un premier incident provoqué par l'un des 14 accusés présents dans le box. C'est d'ailleurs le personnage central de ce procès, Salah Abdeslam, membre présumé du commando du 13 novembre, a d'entrée de jeu voulu engager le rapport de force, Gladys Lafitte.
Vêtu de noir jusqu'à son masque, le dernier membre vivant du commando du 13 novembre a profité de l'interrogatoire sur son état civil pour déclamer sa profession de foi. Le président l'a aussitôt recadré. On verra ça plus tard. Le ton est donné, l'accusé s'exprime et surtout sur ses conditions de détention, comme il le fait depuis 6 ans à chaque fois qu'il rencontre le juge des libertés et de la détention, allant même jusqu'à cracher sur une caméra lors d'une audience. Hier, c'est à la cour qu'il s'en est pris. Après le malaise d'un accusé dans le box, Salah Abdeslam a pointé le président du doigt. Il a estimé qu'ils étaient traités comme des chiens, s'est-il emporté. Là encore, le président l'a recadré. Les accusés n'auront la parole qu'à partir de novembre, lorsque la cour examinera leur parcours. Aujourd'hui, l'appel des témoins doit continuer, avant d'aborder le long rappel des faits demain.
À Metz, le tribunal a réclamé 3 mois de prison avec sursis à l'encontre d'une enseignante qui avait brandi une pancarte jugée antisémite lors d'une manifestation contre le pass sanitaire. L'audience s'est déroulée sans la prévenue. Jugement en délibéré attendu pour le 20 octobre.
En Afghanistan, c'est un triste anniversaire que l'on fête aujourd'hui, celui de la mort du commandant Massoud, assassiné il y a 20 ans par des tueurs d'Al-Qaïda.
D'autant plus triste que les talibans sont revenus au pouvoir. Un régime que le commandant Massoud a toujours combattu avec un certain succès depuis sa base arrière du Panjshir. Et comme un symbole, cette région autonome est tombée aux mains des talibans. Un anniversaire au goût amer pour Obaïd Mahdi, un proche de la famille Massoud.
Mon père était l'un de ses amis proches. Je me souviens du commandant Massoud au Tadjikistan en 1998. Il avait préparé un budget et a demandé à mon père de rassembler des auteurs, des journalistes, des acteurs du monde culturel pour construire un nouveau système éducatif. Tous les livres de presque tous les niveaux scolaires étaient prêts quand il a été assassiné. Le commandant Massoud n'était pas qu'un guerrier, il voulait la paix. C'était un humaniste, un homme d'honneur, des choses que les talibans ne connaissent pas. Il est le symbole de la résistance. Nous suivrons son exemple, nous résisterons encore. L'anniversaire de sa mort cette année est déchirant. Le monde voit l'Afghanistan en sang et garde le silence. Les gens sont choqués, ils sont tristes, en colère de voir leur pays retourner 20 ans en arrière.
Un témoignage recueilli par Marion Gauthier. Les talibans qui ont présenté une grande partie de leur nouveau gouvernement et trahi une première promesse. Il devait être inclusif, il ne l'est pas. Aucune femme ne le compose. La communauté occidentale rappelle que le régime sera jugé sur ses actions en matière de respect des droits. Et puis au Maroc, c'est l'événement politique de la nuit. Les islamistes au pouvoir seraient largement battus selon les premiers résultats des élections législatives. Les partis libéraux obtiendrait la majorité au Parlement.
Il y aura sans doute beaucoup de monde cet après-midi aux Invalides à Paris. C'est là que se déroulera l'hommage national à Jean-Paul Belmondo.
La cérémonie commencera à 16h30 dans la cour de l'hôtel des Invalides. La famille et les proches, les amis du comédien seront là. Alain Delon a d'ailleurs annoncé sa venue. Le grand public pourra lui aussi rendre hommage à l'artiste. Près de 1000 places ont été aménagées sous les arcades et des écrans géants ont par ailleurs été installés à l'extérieur. Jacques Serret.
Oui, hommage national, mais surtout hommage populaire pour Jean-Paul Belmondo. C'est le souhait de la famille du comédien. C'est pourquoi, en plus des près de 700 invités officiels, le grand public aura toute sa place. D'abord à l'intérieur de l'enceinte de l'hôtel des Invalides, où les services de l'Élysée ont prévu de laisser rentrer dans les coursives du monument 1 millier de Français. Et puis à l'extérieur, où depuis les pelouses de l'esplanade, chacun pourra suivre via des écrans géants la cérémonie. Des scènes et des répliques cultes de Belmondo seront diffusées. L'orchestre de la garde républicaine interprétera également certaines musiques de ses films. Le chef de l'État, lui, prononcera un éloge funèbre devant le cercueil orné d'un drapeau tricolore. Après la sonnerie aux morts, la minute de silence et la Marseillaise, c'est alors une longue procession qui s'organisera aux abords des Invalides. Car à 19h30 précise, la cour d'honneur ouvrira ses portes à tous ceux qui veulent venir saluer une dernière fois l'icône du cinéma français. Un dispositif à l'image de celui qui avait été mis en place lors de l'hommage à Jacques Chirac.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo auront lieu demain en l'église Saint-Germain à Paris.
Éric Zemmour n'a pas encore dit s'il était candidat pour la présidentielle, mais le CSA estime que son temps de parole devrait être décompté dans les médias.
Il est un acteur du débat politique national au regard de ses prises de position, de ses actions et des réactions qu'il suscite, conclut le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Éric Zemmour qui a été relaxé en appel des poursuites pour injures et provocation à la haine après ses propos sur l'islam.
Si vous êtes à Paris ce soir, profitez-en pour lever les yeux vers le ciel, vous devriez voir un beau défilé.
Celui des avions de la patrouille de France qui ont prévu de survoler la capitale vers 19h. Opération décidée dans le cadre de la lutte contre le cancer pédiatrique. La maladie ne concerne pas seulement les plus âgés, elle touche aussi des enfants. Le capitaine Cyril Touzet est fier de participer à cette opération.
Le but du jeu, c'est que les gens nous voient la patrouille de France survolée et se disent « Tiens, je peux apporter ma pierre à l'édifice pour combattre le cancer pédiatrique. » Et la deuxième partie, c'est pour faire plaisir aux enfants qui en ont besoin. Ils ont besoin d'un rayon de soleil dans ces moments difficiles et aussi rendre un hommage aux soignants qui les accompagnent dans ce combat. Voilà. Alors pour les aider, c'est très simple. Hein. Eux, ils ont besoin d'argent pour aider la recherche. Donc une fois que les pilotes se seront posés, on va tous rejoindre un lieu dans Paris pour effectuer une vente caritative, mettre à disposition certaines choses emblématiques que l'on porte au quotidien, comme nos blousons de vol, des photos assez uniques. Le but du jeu étant que des généreux donateurs puissent acquérir ces lots et ainsi fournir de l'argent pour l'association. Voilà.
Le capitaine Cyril Touzet de la Patrouille de France.
Opération Septembre en Or, c'est le nom de cette campagne pour sensibiliser le grand public à la lutte contre ces cancers pédiatriques. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe. On passe aux courses. Les pronostics du quintet de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est en semi-nocturne sur l'hippodrome de Paris-Longchamp que se disputera ce quintet. Un handicap réservé à la jeune génération des poulains et pouliches âgés de 3 ans, avec 15 partants et non 16, le numéro 14 ayant déclaré forfait. 4 fois à l'arrivée à ce niveau en 4 tentatives, sans pour autant avoir réussi à s'imposer, Il au secret, le numéro 7, sera mon préféré. Il pourrait bien dès aujourd'hui combler cette lacune, puisqu'il sera cette fois associé au crack jockey Christophe Soumillon, capable de lui faire réaliser ce plus, afin qu'il puisse enfin remporter un quintet mérité au vu de sa régularité. On lui opposera les numéros 8 American Park, 9 Bazoc et 5 High Lady qui, dans des quintets précédents, ont rivalisé avec Il au secret, mon favori. Et à ce titre, ils doivent automatiquement figurer tous les trois dans une sélection. Ensuite, je vous recommande les numéros 1 Silver Silk, 2 Motaen, 4 Ici Vindécie et 6 Quizzer qui sont autant de possibilités pour s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 7, 8, 9, 5, As, 2, 4 et 6.
Merci beaucoup Thierry Léger, pronostic à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. À demain Thierry. Il est 5h40, bon début de matinée avec Europe 1. On en vient à ce triste bilan de la SPA. Le nombre d'animaux de compagnie recueillis par l'association est historique. Plus de 16 500 animaux sauvés par l'association ces trois derniers mois. On en parle dans un instant avec Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA. Tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 5h42 sur Europe 1. Merci de votre fidélité. Fidélité précieuse dont n'ont malheureusement pas bénéficié les quelques 16 894 animaux recueillis ces trois derniers mois par la SPA. C'est du jamais vu, d'autant que l'été précédent, il y avait eu un net recul des abandons. Comment l'expliquer ? On en parle, Omblin, avec Jacques-Charles Fonbonne, le président de la SPA.
Bonjour Jacques-Charles Fonbonne.
Bonjour.
On vient d'entendre les chiffres historiques d'animaux que vous avez recueillis entre mai et août. Comment analysez-vous ce rebond ?
Oh, je pense que l'on prend de plein fouet l'effet confinement. D'abord, ce sont les chats dont le nombre augmente le plus. Sur les 16 000, presque 17 000 animaux que vous soulignez à l'instant, on a 12 000 chats. Le premier effet, c'est l'absence de stérilisation, du fait que le confinement n'a pas permis à l'SPA, aux autres associations et aux mairies de faire les stérilisations des chats errants. Donc on a vraiment une prolifération et les gens nous les amènent parce qu'ils les ont trouvés dans leur jardin et ils ne savent pas comment faire. Il y a ensuite les chats que les gens ont achetés dans des animaleries, chez des marchands. Comme on prend des jouets pour s'occuper un peu pendant le confinement et puis maintenant ils deviennent encombrants et ils nous les amènent. Ce sont les deux chiffres principaux. On a une augmentation de 20% des chats dans ces 7% d'augmentation générale par rapport à notre année de référence qui est 2019. On a également cet effet du confinement sur ce que l'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, principalement des lapins. Et là, c'est pareil, des lapins que les gens ont achetés dans les animaleries. Et puis maintenant, ils deviennent encombrants. On imagine mal les gens dépenser de l'argent pour mettre un lapin dans une pension. Donc, je pense qu'ils les relâchent dans la nature. Les plus sérieux d'entre eux nous les apportent. Et c'est ce qu'il faut faire dans le pire des cas. On en a recueilli cette année 2 à 3 fois plus que les années précédentes. Et vous imaginez bien que c'est vraiment la partie apparente de l'iceberg. Je pense que quand les gens veulent se débarrasser d'un lapin, ils le mettent dans la nature plutôt que de nous l'amener. Et puis cet effet du confinement, indépendamment des abandons, il a aussi un effet sur la maltraitance. On a eu cette année 5 fois plus de réquisitions judiciaires, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des actes de maltraitance, les procureurs de la République requièrent les gendarmes qui nous demandent de les assister pour emmener les animaux. Dans les mois d'été, ça a été plus de 870 animaux que nous avons saisis chez des particuliers ou dans des élevages clandestins.
La loi sur la maltraitance animale adoptée par l'Assemblée nationale en janvier dernier sera examinée par le Sénat à la fin du mois. Qu'en attendez-vous ?
On attend beaucoup de choses. On voudrait que ce soit le texte fondateur du 21e siècle. On attend l'interdiction de la vente dans les animaleries qu'a déjà voté l'Assemblée. On attend l'interdiction de la vente sur Internet, qu'a déjà voté l'Assemblée. On attend quelques mesures sur l'identification des animaux, c'est-à-dire que l'on nous aide à appuyer sur ce qui nous paraît être les trois piliers de la maltraitance animale, c'est-à-dire la prolifération par l'absence de stérilisation, la perte ou l'abandon des animaux parce qu'il n'y a pas d'identification. Et ensuite, il faut restreindre la possibilité de se procurer un animal, soit en l'achetant chez un éleveur, mais pas dans une animalerie, soit en venant l'adopter à la SPA ou dans une autre association.
Et puis il y a aussi le renforcement des sanctions. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail de sensibilisation à faire auprès des magistrats ? Car ces sanctions qui existent aujourd'hui, elles sont peu ou pas appliquées ?
J'ai l'habitude de dire que les sanctions ne font peur qu'aux gens qui ne commettent pas d'infraction. C'est un bon signal. Moi, je crois davantage à l'éducation. Dans 15 jours, 3 semaines, on doit signer normalement avec M. Blanquer un protocole entre la SPA et le ministère de l'Éducation nationale pour que nous puissions aller dans les écoles, j'allais dire porter la bonne parole. Je suis convaincu qu'il n'y a que ça, mais c'est du long terme, donc ça ne se voit pas tout de suite. Mais c'est vraiment le levier le plus efficace que celui qui consiste à aller dans les écoles, voir les tout-petits, parce que ce qu'on leur expliquera sur le respect qu'ils doivent aux animaux va s'ancrer durablement, définitivement dans leur façon d'être. Et là, on aura une véritable évolution du regard que nous allons porter sur les animaux et donc de la protection et de l'absence de maltraitance qu'on va leur offrir.
Et pourriez-vous imaginer qu'on agisse en amont, alors avec les enfants, mais avec les adultes aussi, comme en Belgique, un permis pour pouvoir adopter un animal?
Alors c'est une solution, mais on en a débattu avec les sénateurs et avec les députés pendant la préparation de la loi. La SPA a une position un petit peu plus mitigée. L'idée du permis nous semble être une fausse bonne idée parce que cela implique après une gestion avec un système de retrait des points, avec un système d'attribution de retrait du permis qui est très compliqué. Je pense que psychologiquement en plus, le fait d'être fliqué, passez-moi l'expression, pour adopter un animal est quelque chose qui sera mal perçu. En revanche, il y a deux mesures qui doivent être prises. La première, c'est celle d'une obligatoire information avant l'adoption d'un animal ou avant l'achat chez un éleveur. Les éleveurs tiennent à leurs animaux, ils sont nés chez eux, ils ne vont pas les donner à n'importe qui. Et nous, association, nous nous réservons le droit de ne pas donner un animal à quelqu'un dont on pense qu'il ne lui accordera pas une vie agréable. En revanche, il y a quelque chose qu'il faudrait que le législateur prenne en compte. Il faudrait qu'il y ait un fichier des gens qui ont été condamnés pour des maltraitances ou des gens qui ont déjà abandonné des animaux, de façon à ce que toutes les associations, tous les éleveurs puissent, lorsqu'une personne vient se présenter pour prendre un animal, accéder à ce fichier et savoir si la personne est connue ou inconnue, auquel cas on pourrait lui donner un animal. Mais si elle en a déjà maltraité un ou abandonné un, eh ben on ne le donnerait pas.
Merci beaucoup Jacques-Charles Fonbonne d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de la SPA. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
Bon réveil à vous sur Europe 1, il est 5h48 et c'est l'heure de s'installer à la table du petit déjeuner avec Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour, alors Olivier, que nous proposez-vous de déguster aujourd'hui?
Mais écoutez, je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous êtes resté un enfant vous-même, parce que je vous parle aujourd'hui d'un incontournable du petit déjeuner. Il faut dire que c'est l'heure. Hein. Mm-hmm. La pâte à tartiner, mais alors pas n'importe laquelle. Hein. Oublions les célèbres versions industrielles pour nous concentrer sur celle-ci, celle que je vous ai apportée. La pâte à tartiner du grand glacier chocolatier de la Drôme, installé à Aubenas, Pierre Chauvet. Alors regardez, elle s'appelle les délices d'Arthur. Goûtez surtout cette intensité de saveur de noisette avec une petite touche de chocolat. Et puis surtout un très bel équilibre sans trop de gras ni de sucre. Elle est un peu plus coulante, hein, certes, qu'une pâte industrielle, mais incomparable en termes de texture et de saveur.
Oui, effectivement. Elle est très très bonne.
Allez-y, faites-vous plaisir.
Elle est même excellente. Elle est née d'une petite histoire amusante, Olivier, je crois.
Oui, figurez-vous que Pierre a deux enfants. Il y a une vingtaine d'années, la maîtresse de l'un d'eux organise un petit goûter crêpe en classe et dit à l'un des fils, comme ton père est chocolatier, tu apporteras le Nutella. Alors vous imaginez sa tête. Évidemment impossible pour lui, ce qui va le mener à créer cette pâte à tartiner artisanale compatible avec ses valeurs.
C'est vraiment excellent. Quel est son secret?
Eh bien, vous voulez la refaire, c'est ça, hein? Comme toujours en cuisine, la
c'est
recette,
quoi, la recette oui.
elle est très simple. Hein. Tout réside dans la qualité des produits de base, dans la version chocolat noisette que vous avez là, qui est donc baptisée délice d'Arthur. En hommage à son fils, on retrouve uniquement des produits naturels, dont 60% quand même de noisettes.
Oui, on le sent bien, hein, la noisette est bien
elle
présente.
Elle est très très intense, un peu de cacao, du sucre, du lait entier. Et le secret, c'est une petite pointe de fleur de sel qui vient rehausser tout ça. Il en fait même une version sans lactose. Évidemment, pas d'huile de palme, pas de conservateur, pas d'émulsifiant et surtout du savoir-faire. Pierre Chauvet travaille le chocolat depuis 28 ans avec passion, ancien pâtissier dans la restauration. Il a quand même travaillé pour Jacques Maximin ou Roger Verger. Il s'est pris de passion pour le chocolat à l'âge de 24 ans. Et après une formation et une expérience chez les grands noms de la chocolaterie, il rachète avec son épouse une petite chocolaterie à Aubenas. Ce sera le début de son aventure, à laquelle il ajoute une activité de glacier en 2001. Et tout est évidemment préparé sur place, sans aucune exception.
On les trouve où, ces magnifiques pâtes à tartiner?
Eh bien, dans le studio, mais aussi dans ses boutiques à Aubenas ou à Valence. Maintenant, sur son site, il y a une vente en ligne. Le prix est évidemment un petit peu plus élevé que pour une pâte à tartiner industrielle. On est ici à 7,90€ le pot de 375 grammes, je crois, ce qui reste accessible. Alors franchement, en termes de goût, ça n'a rien à voir avec les produits vendus vendues en grande surface. Petit conseil, elles ne se conservent pas au frigo et l'huile de noisette peut se séparer, remonter un peu à la surface. Il suffit alors de bien la mélanger, comme vous avez pu le faire.
Parce qu'elle risque de durcir en plus.
Et si on la met dans le frigo, elle va figer. Voilà, il faut qu'elle reste coulante sur la tartine de pain grillé du matin. C'est un pur délice.
Merci beaucoup pour cette chronique, cette dégustation.
Ben, je vous en prie.
Et il est grand temps de refermer ce pot.
Oui.
Démoniaque et maléfique.
Merci.
Merci beaucoup Olivier Pouls.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Voilà, le pot est refermé. On peut passer aux choses sérieuses. L'info, le journal permanent à 5h51 avec Alban Leprince.
Deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, l'appel des parties civiles et témoins se poursuit. Salah Abdeslam, dernier membre du commando encore vivant, a enchaîné les provocations. Il se présente comme un combattant de l'État islamique et se dit traité comme un chien en prison. L'eau est montée hier soir à Agen. Elle est redescendue dans la majorité des rues. Ce matin, il est tombé 2 mois de pluie. En 3 heures, l'adjointe au maire fait état ce matin d'une vingtaine de personnes mises en sécurité, 3 familles relogées. Le temps de parole d'Éric Zemmour dans les médias décompté à partir d'aujourd'hui sur décision du CSA hier. Le polémiste qui n'a pas officialisé sa candidature est considéré comme un acteur du débat politique national. Il dénonce une opération de censure. Des cocktails Molotov au Tarteret à Corbeil-Essonne, 20 à 30 individus se sont attaqués à un fourgon de police en début de soirée. Jeunes et forces de l'ordre s'affrontent depuis l'interpellation de 2 personnes jeudi dernier.
Europe Matin.
Il est 5h52 sur Europe 1 et c'est l'heure de notre tour de France des quotidiens régionaux. Un article par jour raconté par celles et ceux qui l'ont écrit. Et ce matin, eh bien Julien, on prend la direction du Périgord.
Bonjour Marine Petit.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes journaliste à la Dordogne Libre, où l'on peut lire ce matin votre reportage sur une récolte de miel à Périgueux. Récolte un peu particulière puisque ces ruches appartiennent à la ville.
Voilà, exactement. En fait, c'est le rucher de la ville qui se trouve au cœur des serres municipales. Et on s'y est rendu avec mon photographe hier pour assister à la récolte de miel de l'année. Donc voilà, ils ont récolté près de 30 kilos de miel. Donc ça peut paraître beaucoup comme ça, mais au final, c'est pas une année très favorable. Car d'habitude, ils récoltent près de 80 kilos, mais avec malheureusement le temps qui n'a pas été de la partie cette année, la récolte est assez faible, mais ils étaient déjà contents d'arriver à produire quelques pots.
30 kilos au lieu de 80, c'est quasiment 3 fois moins, c'est considérable.
Voilà, c'est ça, mais en fait, le pollen des fleurs a été lavé par toutes les pluies qui sont tombées, donc les abeilles ont dû beaucoup plus travailler, et ainsi, il y a moins de miel en fait à la fin de l'année, après faire un temps plus chaud et ensoleillé.
Il n'y a que la mauvaise météo, l'été pourri qui explique cette faible récolte.
Alors pour eux, il y a aussi le problème des frelons, qui sont un petit peu les ennemis des abeilles et du coup les ennemis des apiculteurs, car ils arrivent, ils se mettent à l'entrée de la ruche et quand les abeilles reviennent dans la ruche chargées de miel, les pauvres elles se font attaquer et comme ça ils ont perdu une colonie d'abeilles cette année.
Combien il y a de ruches dans ce rucher municipal ?
Cette année, il y en a 6 qui sont en activité. Et pour chaque ruche, il y a près de 30 000 à 4 000 abeilles qui y travaillent.
Ouais, ce qui est considérable. Comment s'est déroulée concrètement cette récolte de miel à laquelle vous avez pu assister ?
Donc on est arrivé, il y avait 2 apiculteurs passionnés et qui travaillent aussi pour la ville, qui étaient en train de récolter le miel. Ils prenaient les cadres et avec des spatules, ils font couler le miel et enlèvent une petite opercule qui est sur la couche. Et ensuite, ils passent tout dans une centrifugeuse et là, le miel vraiment 100% naturel coule dans un seau qu'ils feront ensuite reposer et ensuite, ils feront de bons pots de miel avec tout ça.
Que devient ce miel, justement, ces bocaux par la suite ?
En général, il sert pour les mariages. Il est distribué lorsqu'il y a des mariages à Périgueux ou alors dans le cadre de la semaine du goût. Comme ça, les élèves des écoles de la ville peuvent profiter d'un petit pot de miel. Et sinon, si la récolte est très très bonne, ils en distribuent dans des épiceries sociales. Mais malheureusement, ce ne sera pas pour cette année, vu la récolte.
J'imagine que si la ville de Périgueux a installé des serres en son sein, c'est aussi pour sensibiliser, j'imagine, sur l'importance des abeilles.
Voilà, ils font pas du tout, tout ce travail pour gagner de l'argent, mais au contraire, sensibiliser les habitants à l'importance des abeilles et à l'importance de leur travail, et aussi, pourquoi pas, inciter peut-être et provoquer des vocations chez certains qui voudraient accueillir des ruches dans leur jardin, même si c'est un processus qui est assez compliqué et fastidieux.
Bon, peu de miel au final, mais est-ce qu'il est bon ? Vous avez pu le goûter au moins ?
Oui, on a eu la chance de le goûter, de tremper le doigt juste quand il sort de la centrifugeuse. Et vraiment, un goût très fort. C'était excellent.
Oui, voilà, vous nous donnez faim à l'heure du petit déjeuner. Merci beaucoup, Marine Petit. Merci de nous avoir raconté l'un des articles à lire ce matin dans la Dordogne Libre. Bonne journée et à bientôt.
À bientôt, merci à vous, bonne journée.
Europe 1. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier, je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne. Mes larmes inondent jusqu'au fauteuil. La nuit est longue, je me sens si seule. Mes rêves s'effondrent, ils tirent la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier. Je me sens conne, j'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Que l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, j'en ai vu assez. J'en ai vu toutes les couleurs. J'ai broyé bien plus que du noir sur la palette de la douleur. Toutes les variantes du désespoir. Y'a toi qui peux me consoler. Pourtant c'est toi qui m'as blessé. C'est plus pareil, je nous vois flou. Je sens son odeur sur tes genoux. Je suis comme un soldat fusillé. J'ai pas vu l'ennemi arriver. Mais j'ai appris à prendre les coups. Je compte bien me battre jusqu'au bout. Je te pardonne.
Je te pardonne sur Europe 1. C'était Oshi qui sera en concert samedi 18 septembre à Charnay dans le Rhône dans le cadre du festival Les Vendanges Musicales.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, merci de choisir Europe. Très bon réveil avec vous et avec nous et avec au programme de la prochaine demi-heure, Julien. La nouvelle arme de la grande distribution pour nous fidéliser.
Le principe est simple et calqué sur ce que propose Amazon. Un abonnement payant en échange de réduction sur vos achats. Après Casino et Monoprix, Carrefour va expérimenter ce système. 6€ par mois et vous bénéficiez de 15% de rabais sur 7000 produits. C'est une petite révolution, on peut le dire, en perspective qui pourrait bien devenir rapidement la norme. On en parle dans un quart d'heure avec notre invité Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Et puis juste après, Omblin, votre partition.
James Brown les cite en exemple, leur musique est à l'origine instrumentale. Le son jazz funk cuivré de Kool & The Gang à 6h20.
Mais avant, votre météo. Pas cool du tout ce matin, Anissa Dadi.
Non, pas cool, non. Avec 5 départements toujours placés en vigilance orange, l'Ariège, la Haute-Garonne, le Tarn et l'Aveyron, vigilance orange aux orages, et puis l'Aude en vigilance pluie inondation où l'on attend jusqu'à 120 mm par mètre carré jusqu'à midi. Donc beaucoup d'eau sur le département de l'Aude, soyez prudents, avec un risque bien sûr important de crues et d'inondations. Alors toujours beaucoup de pluie et d'orages, hein, de Perpignan à 7 là actuellement. Actuellement des orages également dans la Meuse. Aujourd'hui, les orages sont stationnaires une bonne partie de la journée sur l'Aude et le Tarn. Des plaines toulousaines jusqu'aux Ardennes, le temps reste très pluvieux. Aujourd'hui, avec pas mal d'orages qui vont se renforcer dans l'après-midi sur le massif central. Donc si vous nous écoutez en Auvergne, attention, l'activité électrique sera importante en fin de journée. Alors pour résumer, il va quasiment pleuvoir partout. Il y aura des coups de tonnerre partout, sauf dans les Alpes, la Provence et la Corse, où là, le temps reste sec et ensoleillé. Les températures, elles sont très douces encore ce matin. Hein, 4 à 6 degrés au-dessus des normales. On a 13 degrés à Charleville-Mézières, 20 degrés à Paris, c'est étouffant. Cet après-midi, ça baisse un peu, mais ça reste toujours au-dessus des normales. 23 à Biarritz, 25 à Lyon, 27 à Paris et 30 à Marseille.
Et on en profite pour faire un bisou à Sophie qui nous écrit sur Twitter. Elle dit qu'elle fait 18 degrés ce matin à Reuilly, c'est dans l'Indre. Merci Anissa Dadi. Vous écoutez Europe 1. Très bon réveil à tous, c'est le journal. Il est 6h.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
L'eau est vraiment montée très vite. Devant moi, j'ai 30 cm d'eau, voire même 40 cm d'eau. Bon, ben, je sens que je vais peut-être passer la soirée dans la voiture.
À Jeun, sous les eaux, le déluge s'est abattu sur la ville hier soir. 2 mois de pluie en 3 heures et des habitants piégés par les inondations. Témoignage dans un instant. Deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre. Hier, le coup d'éclat de Salah Abdeslam a glacé l'auditoire. On est traités comme des chiens. Une provocation prévisible pour l'un des avocats des parties civiles. Et puis 545 classes fermée en France à cause du Covid. Une semaine après la rentrée scolaire, des parents doivent déjà trouver un plan B. Reportage à Marseille. Le journal de 6 heures vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Plus de 2 mètres d'eau dans les rues. Le déluge s'est abattu hier soir sur Agen. 2 mois de pluie en 3 heures. Record pulvérisé dans cette commune du Lot-et-Garonne. Une vingtaine de personnes ont été mises à l'abri par les pompiers. Et la montée des eaux très rapide a surpris ses habitants.
Ça fait maintenant une heure que je suis bloqué dans ma voiture puisque l'eau est vraiment montée très vite. Devant moi, j'ai 30 cm d'eau, voire même 40 cm d'eau. Et quand je demande aux passants qui arrivent, qui sont détrempés, ils me disent que c'est même pire qu'il y a de l'eau jusqu'à hauteur de presque deux voitures, que certains ont même de l'eau jusqu'au nombril. Donc bon, je sens que je vais peut-être passer la soirée dans la voiture.
On voyait que plus on avançait, plus la voiture est enfoncée. Mais du coup, quand je suis rentrée dans le hall, j'ai tout de suite vu qu'il y avait 10 cm d'eau presque, voire plus. Et là, c'est bon là où j'ai commencé à avoir peur. C'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. À Jeun, c'est pas un endroit où ça arrive souvent. C'était assez stressant.
Des témoignages recueillis par Thibaut Hu pour Europe 1.
À noter aussi qu'à Sarlat, en Dordogne, un cinéma a été évacué en pleine séance hier soir. Le niveau de l'eau avait tout de même commencé à descendre en fin de soirée.
Ces propos ont glacé l'auditoire. Premier jour de procès hier et première provocation déjà pour Salah Abdeslam, jugé pour les attentats du 13 novembre 2015.
Un combattant de l'État islamique, c'est comme ça que l'homme de 31 ans s'est présenté en début d'audience. Le dernier survivant du commando meurtrier, c'est aussi levé pour se plaindre de ses conditions de détention. On est traité comme des chiens, a lancé le terroriste présumé. Un coup d'éclat qui ne doit pas faire oublier l'enjeu du procès pour Maître Sacha Gosselin, avocat des parties civiles.
Je pense qu'il ne faut pas en être surpris et qu'il ne faut pas non plus attendre grand-chose de Salah Abdeslam. Je pense qu'il ne faut pas le starifier, qu'il ne faut pas en faire une star. C'est un accusé. Il devra être jugé comme injusticiable, comme les autres, pour les crimes qu'il a ou non commis. Et qui seront examinés pendant ces 9 mois d'audience. Donc je ne suis pas surpris et je pense qu'il ne faut pas trop y prêter attention. Ce qui est aujourd'hui particulièrement important, c'est que dans ce palais de justice historique se trouvent réunis des milliers de personnes pour rendre justice à des gens qui ont subi l'horreur et l'effroi il y a 6 ans. Et c'est cela, je pense, qui doit marquer ce début d'audience et pas les provocations d'un des accusés.
Maître Sacha Gosselin, avocat de partie civile au micro de Gladys Laffitte pour Europe 1. La journée sera consacrée comme hier à l'appel des témoins avant le rappel des faits prévu demain.
Un pour tous et tous pour moi, cela pourrait être la devise des journées parlementaires LR qui démarrent aujourd'hui à Nîmes.
Un rendez-vous où tous ont répondu présents, les 4 candidats à la primaire de la droite, tout comme Xavier Bertrand qui poursuit pour l'instant sa course en solitaire. Alexandre Chauveau, l'enjeu de cette rencontre, c'est surtout de comptabiliser ses soutiens.
Oui, le CSA estime en fait qu'avec les derniers développements autour de sa potentielle candidature, son temps de parole n'appartient plus à celui d'un éditorialiste, mais à celui d'un homme politique. On rappelle qu'Éric Zemmour n'est pour l'instant pas candidat.
Alors, on a un petit problème technique, c'est pas le bon sujet. On retrouve éventuellement Alexandre Chauveau. L'enjeu de cette rencontre, Alexandre, de ces journées parlementaires LR, c'est de comptabiliser les soutiens des candidats à la primaire. Hein. Eh bien, on va passer à la suite.
Les Républicains qui pourraient justement bien être embarrassés par un autre adversaire, il s'agit bien d'Éric Zemmour, puisque même s'il n'est pas encore candidat à l'élection présidentielle, son temps de parole sera désormais décompté dans les médias. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel hier soir, pour qui Éric Zemmour n'est plus seulement un polémiste, mais bien un acteur du débat politique national.
Une semaine après la rentrée scolaire, première interrogation pour l'élève Jean-Michel Blanquer. Question, combien de classes de primaire ont été fermées à cause du Covid?
545, répond le ministre de l'Éducation nationale, soit 0,1% des classes de primaire en France fermées dès le premier cas de Covid. Rien qu'à Marseille, il y en a déjà 45. Le reportage de notre correspondant Stéphane Burgat.
Très occupée à faire des roulades dans son jardin, la petite Pauline, 6 ans, semble toujours en vacances, déplore sa maman, Charlotte.
Ça a été une rentrée un peu particulière. Elle est rentrée 2 jours en classe. On nous envoyait un mail samedi matin pour nous dire donc qu'il n'y avait plus de classe. À grosse surprise, oui. Elle va y retourner, ça c'est certain. Pour combien de temps? Je ne sais pas. C'est sans garantie. C'est une galère sans nom, là, aujourd'hui.
2 classes sont déjà fermées dans leur école et certains, comme cette mère de famille, s'organisent au mieux.
Nous, on a réussi à faire un roulement avec des camarades. Les enfants sont 4. On fait un roulement sur les 4 jours d'école, un jour, un parent. Moi, je me suis occupée des 4 enfants lundi. J'ai fait plus de 3 heures d'exercice avec des enfants de 6 ans. C'était loin d'être simple.
Au moins 45 classes fermées dans la ville en tout juste une semaine, le double à l'échelle du département. À ce rythme, les choses pourraient devenir intenables, selon Anne, qui est enseignante à Aubagne.
Ça va certainement se multiplier toute l'année et ça va être en permanence ça. 7 jours, une classe fermée, puis 7 jours, ce sera l'autre. Non, on ne va pas pouvoir tenir, il va falloir réfléchir.
Et les syndicats enseignants demandent de trouver des mesures plus adaptées en concertation avec les parents et les professeurs. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Marseille, justement, la ville où a été tourné Borsalino, sorti en 1970, film où Alain Delon donnait la réplique à Jean-Paul Belmondo.
Alain Delon qui sera présent aux Invalides à Paris cet après-midi. Hommage national à Bébel, Jean-Paul Belmondo décédé lundi à 88 ans. Hommage populaire aussi puisque 1000 personnes pourront assister à la cérémonie qui sera aussi retransmise à l'extérieur sur écran géant.
Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
Et on passe au sport à 6h07.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports avec vous, Martin Lange. Et ça y est, depuis hier soir, Nice et Marseille sont fixés.
Oui, la commission de discipline de la Ligue a rendu son verdict. Le match qui n'est pas allé à son terme suite à de graves incidents sera rejoué à huis clos et sur terrain neutre. Nice récolte par ailleurs 2 points de pénalité, dont 1 avec sursis, ainsi que 3 matchs à huis clos dans son stade de l'Allianz Riviera. Enfin, 2 joueurs marseillais impliqués dans les affrontements avec les supporters niçois ont été sanctionnés. Le défenseur Alvaro González écope de 2 matchs de suspension, tandis que Dimitri Payet prend 1 match avec sursis pour sa réaction après avoir reçu une bouteille. Des sanctions que déplore Jacques Cardoz, le directeur de la communication de l'OM.
Les joueurs, on ne doit jamais le perdre de vue, ce sont les acteurs du jeu et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant responsables de ce qui s'est passé. 25 projectiles contre Dimitri Payet, 1 laser en permanence dans les yeux d'Alvaro pendant toute la durée du match. La sanction est très sévère contre ces 2 joueurs marseillais, alors qu'elle semble être assez clémente contre les joueurs niçois, puisque aucun d'entre eux n'est sanctionné.
L'OM a-t-il intérêt à faire appel ?
On se réserve la possibilité de faire appel, mais c'est une décision qui sera prise la semaine prochaine par les juristes du club.
Jacques Cardoz, un joueur pour Europe 1 par Jean-François Pérez.
Football toujours et un jeune Français de 18 ans en plein rêve éveillé.
Oui, Eduardo Camavinga a été présenté hier par le Real Madrid. L'ancien Rennais, transféré chez les Meringues le dernier jour du Mercato, portera le numéro 25. Et il a justifié son choix alors que certains lui prédisent une saison sur le banc. On l'écoute.
Le premier facteur, déjà, c'est pas l'argent, déjà, c'est le plaisir. Et le fait de venir au Real Madrid, comme j'ai dit, c'était un rêve depuis petit. Et dès que j'ai su qu'il y avait l'occasion de venir et d'apprendre aussi, j'ai sauté sur l'occasion et je vais tout donner pour jouer et pour rendre fiers les supporters et ma famille.
Eduardo Camavinga au micro d'Henri Delaguéry. Il était un membre éminent de la formidable équipe de Saint-Etienne dans les années 70. Le défenseur Gérard Farisson, plus de 400 matchs avec les Verts et un palmarès long comme le bras, nous a quittés hier. Il avait 77 ans.
On connaît presque le tableau définitif des demi-finales de l'US Open, Martin.
Oui, Novak Djokovic continue de batailler contre l'Italien Berrettini. Il mène 2 manches à 1 et n'est plus qu'à 1-7 de rejoindre Zverev dans le dernier carré. Chez les filles, la très jeune Eva Raducanu, 18 ans, affrontera la grecque Sakkari pour une place en finale. Et impossible d'être complet sans le petit point volé du jour. Les Bleus continuent leur sans-faute à l'Euro, 4 matchs et 4 victoires. Hier, les champions olympiques ont sèchement battu la Lettonie 3-7-0. Prochain match ce soir contre l'organisateur estonien.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Martin Lange.
6h10 sur Europe 1, restez avec nous dans un instant. On va s'intéresser à cette nouvelle tendance dans la grande distribution, des abonnements mensuels pour bénéficier de réductions sur vos achats. Après Casino et Monoprix, Carrefour va bientôt s'y mettre. On en parle dans un instant avec un spécialiste de la grande distribution. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h12, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. C'est la nouvelle arme de la grande distribution, l'abonnement. Voilà, de plus en plus d'enseignes proposent désormais à leurs clients de payer un forfait mensuel pour bénéficier de réductions sur leurs achats. Dernier exemple en date, Carrefour. Pour en parler, Julien, on reçoit ce matin Olivier Dauvert, journaliste spécialisé dans la grande distribution.
Bonjour Olivier Dauvert.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. C'est vous qui avez révélé que Carrefour allait bientôt tester un système d'abonnement auprès de ses clients. Ce sera dans un premier temps dans une vingtaine de magasins de Rouen avant une très probable généralisation à toute la France. En quoi consiste cette offre exactement ?
Alors le principe, c'est de demander aux clients qu'ils s'engagent à payer 6 euros par mois et en échange de quoi Carrefour s'engage à lui faire une réduction de 15% sur l'ensemble des produits qui portent la marque de l'enseigne, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment les marques de distributeurs. Donc c'est du donnant-donnant, vous donnez 6 euros à Carrefour et lui il va vous donner 15% de remise. Donc c'est une forme de programme de fidélité, nouvelle façon, très inspirée de finalement d'Amazon Prime. Vous savez, quand vous êtes abonné Prime, eh bien vous payez une fois, puis toute l'année, vous avez droit à la livraison gratuite. C'est le même principe.
C'est une tendance lourde, l'apparition de ces abonnements dans les enseignes de la grande distribution.
L'abonnement, évidemment, c'est quelque chose auquel on est habitué dans notre vie quotidienne, mais on était habitué jusqu'à présent à l'abonnement plutôt sur le marché des services. Ça veut dire aller au cinéma, regarder des chaînes de télévision, aller à la salle de sport. C'est plus récent que l'on ait de l'abonnement sur les achats de produits. C'est essentiellement, encore une fois, Amazon qui l'a fait. Cdiscount a fait pareil avec un programme qui s'appelle Cdiscount à volonté. Et par contre, c'est vrai que c'est nouveau sur les enseignes alimentaires parce que le premier qu'il a fait, c'était Casino il y a 2 ans et demi, de manière assez discrète finalement, parce que si vous n'êtes pas client Casino, vous vous en rendiez pas compte. Là, on change d'échelle parce que c'est Carrefour. Et Carrefour, c'est ni plus ni moins que le premier distributeur français. Donc tout ce que fait Carrefour est regardé. Et donc le principe même de l'abonnement, qui était quasiment passé sous le radar de tout le monde depuis 2 ans et demi, eh bien là, désormais, on se rend compte que ça existe. Donc on ne peut pas encore dire que c'est une tendance lourde parce que finalement ça démarre.
Alors l'objectif premier, tout le monde le comprend, c'est de fidéliser la clientèle, de la retenir en quelque sorte. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande volatilité des consommateurs, les promos, les cartes de fidélité, tout ça, ça ne suffit plus ?
Alors j'allais dire de manière un peu provocante que ce genre d'abonnement, c'est un peu l'arme des faibles. Parce que ça veut dire que vous pensez que vous n'êtes pas assez fort en tant que tel pour que le client vous choisisse à chaque fois vous. Vous savez, quand vous quittez chez vous pour aller faire vos courses, vous pouvez aller dans des tas d'enseignes. Pourquoi vous en prenez une plutôt qu'une autre ? Eh bien, avec l'abonnement, en fait, on veut vous retenir d'aller voir ailleurs. Parce que de manière assez logique, quand vous aurez payé 6 euros d'abonnement chez Carrefour, ou 10 euros chez Monoprix, ou 10 euros chez Casino, puisque c'est les 3 enseignes qui le font, ben votre intérêt évident de consommateur, c'est d'aller nulle part ailleurs, parce que sinon, vous aurez payé un abonnement et vous n'en profiterez pas autant que vous pourriez. Donc on est sur ce qu'on pourrait appeler non plus des programmes de fidélité, mais des programmes de rétention.
C'est le signe d'une inquiétude face aux nouveaux modes de consommation, le e-commerce ou les circuits courts ?
C'est en tous les cas la volonté d'expérimenter une nouvelle technique de vente sur laquelle le consommateur aujourd'hui est manifestement en train de s'habituer, qui est l'abonnement, puisqu'on le voit vraiment un peu partout dans notre vie quotidienne, en se disant « et pourquoi pas l'alimentaire ?». On ne sait pas encore si ça va fonctionner, parce que ce que fait Casino depuis 2 ans et demi, c'est malgré tout à petite échelle. Là, avec Carrefour, ça change d'échelle. Mais ce qui est certain, c'est que si ce qui est encore en test pour Carrefour sur Rouen, sur une vingtaine de magasins, se déploie l'année prochaine, alors ça va contraindre tous les autres à l'avoir, parce que ça va devenir normal d'avoir un programme d'abonnement. Donc si Carrefour le fait à grande échelle, soyez certains que tous les autres le feront, parce que sinon ils prendront le risque de perdre une partie de leurs consommateurs occasionnels qui venaient chez eux que de temps en temps et qui vont désormais aller uniquement que chez Carrefour.
Et justement, pour en revenir à Carrefour, 15% de réduction sur 7000 produits, le tout pour 6 euros par mois. Ça va vite devenir rentable pour certaines familles et donc j'imagine coûteux pour Carrefour.
Oui. Ça va être à la fois rentable pour les familles, mais aussi pour Carrefour. Parce que tout simplement, quand vous avez des volumes qui progressent, des clients qui viennent plus souvent chez vous, ça vous permet de gagner plus parce que vous savez, la grande distribution, c'est là où c'est magique. Pour gagner beaucoup d'argent quand on est un commerçant, il faut vendre le moins cher possible parce que vous vendez plus de quantité. Et c'est la quantité qui fait finalement la rentabilité dans ce métier.
L'autre avantage pour les enseignes, j'imagine, c'est qu'avec ce système d'abonnement, elles vont économiser sur leur budget publicité, non ? Il n'y a plus besoin de faire des publicités à la radio, à la télé ou ailleurs ou dans les journaux pour vanter les promotions.
J'ai le sentiment que ça ne sera pas à la place de la publicité et de la communication, tout simplement parce qu'une enseigne ne peut pas vivre sans de toute façon. Donc, il faut avoir les deux. parce que si vous n'avez pas la publicité pour que le client pense à vous de manière assez naturelle, il y a certains clients qui ne viendront pas. Donc ça va pas se faire au détriment d'autres budgets. À court terme, ça va se faire en plus, parce que quand on a perdu des clients, il faut les reconquérir.
Merci beaucoup Olivier Dauvert de nous avoir éclairé ce matin sur cette tendance naissante, ces abonnements que propose Casino, Monoprix, Leader Price et bientôt Carrefour. Je rappelle que vous êtes spécialiste dans la grande distribution. À bientôt sur Europe 1.
Merci, au revoir.
Il est 6h18, vous restez avec nous dans un instant, la partition de Kool & The Gang, à tout de suite.
Europe Matin,
Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 6h20 et 15 secondes, les principaux titres de l'actualité avec Alban Le Prince.
Et Météo France lève les vigilances orange ce matin. L'eau est redescendue dans les rues d'Agen. Elle est montée hier soir jusqu'à 2 mètres. Les précipitations ont atteint des records. 2 mois de pluie en 3 heures. L'adjointe au maire fait état pour le moment d'une vingtaine de personnes mises en sécurité. Deuxième jour du procès des attentats du 13 novembre 2015. Aujourd'hui, l'appel des parties civiles et témoins a duré des heures hier. Et Salah Abdeslam, dernier membre du commando, encore vivant, s'est montré très virulent. Il est, selon lui, traité comme un chien depuis 6 ans.
Place à la musique et à votre partition, Omblin. Nous sommes le 9 septembre et il y a tout juste un an, le disco funk perdait l'un de ses représentants les plus scintillants, Ronald Bell. Et avec son frère Robert, ils ont fondé les légendaires Kool & The Gang.
Cool, Julien, K-O-O-L, c'est Robert Bell. Il est le fils d'un boxeur, ami du grand pianiste de jazz Thelonious Monk. Avec Ronald, ils baignent dans la musique depuis leur plus tendre enfance. Une enfance passée dans la grande banlieue de New York, férue de jazz. Robert Bell se prend de passion pour la basse. Ronald choisit les cuivres et le clavier avec ses amis et avec des voisins. Ils fondent leur premier orchestre.
C'est la musique qui sauve la vie des frères Bell.
Oui, parce qu'au cœur des années 60, Robert file un mauvais coton, il fricote avec des gangs locaux, il met parfois son frère Ronald en danger. Un jour, il est même poursuivi par un membre rival armé d'une machette. Il comprend que c'est le moment d'abandonner la violence des gangs. Pour affirmer un petit peu plus ce changement de trajectoire, Robert adopte ce surnom Cool.
La rue s'est donc terminée, les clubs de jazz deviennent en revanche leur QG.
Le groupe se fait appeler The Jazzy Axe, ils usent les planches des scènes de New York et du New Jersey. Ronald et Robert Bell se rend compte qu'il est difficile de vivre de la musique jazz et décide d'élargir leur répertoire. Influencés par Sly and the Family Stone et surtout par James Brown, ils injectent dans leur composition d'abord du rhythm and blues, puis du funk.
La notoriété de la bande des frères Bell grandit et ils se font appeler désormais The New Dimensions.
Et alors qu'ils doivent se produire dans un nouveau club de la région, à cause d'un malentendu, le patron de la boîte de nuit les annonce comme Cool and the Flames. Ce sera finalement Cool and the Gang, avec cette sonorité un petit peu urbaine qui plaît à Robert Bell.
Nous sommes au début des années 70, c'est Cool and the Gang donc est en train de se forger une solide réputation sur scène.
Ils se mettent à organiser des concerts de plus en plus grandioses avec spotlight et mise en scène, mais c'est vraiment l'album Wild and Peaceful qui marque un tournant dans la carrière de Cool and the Gang. À la fin de l'été 1973, le groupe se met à enchaîner une série impressionnante de succès. 3 titres sont inspirés du très populaire Soul Makossa de Manu Dibango. Dans les clubs, les DJ ne jurent plus que par l'un d'eux, Jungle Boogie.
boogie, baby.
Jungle Boogie, le succès de la fin de l'année 1973. Cool and the Gang avec toujours Robert Bell à sa tête et de retour avec un nouvel album depuis la fin du mois d'août qui s'appelle Perfect Union.
L'union parfaite, un peu comme nous, ma chère Ambline. Merci
bien d'accord.
Beaucoup.
Merci.
6h25 sur Europe 1, vous restez avec nous dans un instant. Votre matinale se poursuit avec le très cool Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27 sur Europe. Un très bon début de journée à tous.
Avec à présent Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.